France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Mon invité aujourd'hui, c'est Philippe Labraud, que vous connaissez tous comme écrivain, comme cinéaste ou comme journaliste. Peut-être ignorez-vous toutefois qu'il est aussi l'auteur de nombreuses chansons pour Johnny Hallyday, Jane Birkin et quelques autres. Cette vie en musique ponctuée de voyages et de souvenirs familiaux, Philippe Labraud nous la racontera dans un instant. Mais avant toute chose, bien sûr, nous allons ouvrir ce programme avec un sourire et avec une larme, en pensant à celle qui nous a quittés cette semaine. La charmante Danielle Darrieux dans le film Battement de cœur en 1940. Vous vous rendez compte, c'était il y a 77 ans et elle vient de nous quitter donc cette semaine. Danielle Darrieux qui n'a pas été seulement une des très grandes figures du cinéma français du XXe siècle, mais aussi une merveilleuse chanteuse. C'est pourquoi nous vous proposons sur France Musique de la retrouver ce samedi et samedi prochain. En fin d'émission, je rediffuserai les deux chroniques que Martin Péné avait consacrées à ses chansons avec des versions rares. On retrouvera d'ailleurs cette charade qu'on vient d'entendre, mais dans une version plus inattendue. Rendez-vous donc pour retrouver Danielle Darrieux avec Martin Péné vers midi et quart.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais pour l'heure, je vous le disais, nous avons rendez-vous avec une grande personnalité de la vie littéraire, cinématographique, médiatique française. Il a tout fait, cet homme passionnant et plein d'énergie. Et il a même fait beaucoup, beaucoup de chansons. Ce sont ses chansons ou sa vie en chansons que nous allons découvrir ensemble ce matin en compagnie de Philippe Labraud.
S'il existe encore aujourd'hui, il doit vivre aux États-Unis. Il doit jouer de la guitare. qui est couché sur les bancs des gares. Il doit fumer de la marijuana avec un regard bleu qui plane. Jésus, Jésus-Christ est un hippie. Poncho mexicain sur le dos, autour de son front un bandeau. Il est barbu et chevelu, il s'est battu à Chicago. Il aime les filles au sein nu, il est né à San Francisco. Oui, Jésus, Jésus-Christ est un hippie. Dans les parcs et le long des docks, il vit dans un sac de couchage. On n'arrête pas de l'arrêter pour délit de vagabondage. Au grand festival de Woodstock, c'est lui qui soigne les blessés. Oui, Jésus, Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ est un hippie.
Bonjour Philippe Labreau.
Bonjour.
Je suis heureux de redécouvrir grâce à vous cette chanson. Je crois que c'est la première que vous avez écrite pour Johnny Hallyday.
Exact, oui. C'est un texte que j'ai écrit d'abord. Je pensais que personne ne le chanterait.
Oui.
Je l'ai proposé à Eddie Vartan, qui à l'époque avait fait la musique de mon premier film. Et je lui ai dit, écoute, personne ne chantera ça. Il me dit, si, Johnny le chantera. Parce qu'à l'époque, les paroles étaient légèrement iconoclastes, si on peut. Moins qu'on puisse
donc
dire.
Elle n'a pas été écrite expressément pour Johnny, en fait.
Non. Je reviens d'un reportage aux États-Unis, un des nombreux reportages, j'ai vécu toutes les 60s pratiquement là-bas,
ouais.
Et je me dis, effectivement, ils sont tous christiques, ces jeunes gens qui disent peace and love, les cheveux longs, la fleur à la main, l'amour, la paix. Et j'ai, comme ça, sur le papier, j'ai jeté ce texte. Et ensuite, je me suis dit, tiens, ça peut faire une chanson. J'ai porté à Eddie qui m'a dit, Johnny la chantera, je te fais la musique. Et on est rentré en studio.
Et ça m'a amusé de la redécouvrir parce que, effectivement, vous-même, Philippe Labreau, vous êtes un écrivain, un homme qui a de la distance, puis vous êtes aussi un homme d'action, un grand journaliste, etc. Et on vous imagine pas du tout dans le monde hippie américain, avec les fleurs, la croix, etc. C'est un regard de l'extérieur. J'imagine que vous n'avez pas beaucoup fréquenté hippies des années 70.
Non, mais j'ai regardé, j'ai observé. La vertu numéro un du journaliste, c'est d'observer.
Absolument.
De prendre des notes. Donc c'était ma curiosité de cette époque, que j'ai trouvée passionnante, comme tout le monde, puisque c'est l'époque majeure. Hein.
Mais c'est un mouvement que vous trouviez sympathique, le mouvement hippie.
Évidemment. Ouais. Bah, c'est toujours sympathique, les gens qui s'opposent à la violence, à la méchanceté, enfin toutes sortes de choses. Non. Et puis, c'est vrai, je le vois, moi, Jésus, je le vois effectivement sur un campus, avec le cheveu long. Et... Alors je ne sais pas s'il filme de la Marie-Jeanne, c'est un peu osé. À l'époque, hein, n'oubliez pas, on est quoi? On est en 50.
Hein. On est en 70, c'est l'album Vie. Hein, donc c'est, finalement, vous allez écrire l'album complet pour Johnny à la suite de... Parce qu'il a aimé cette chanson.
Oui, et donc, mais à l'époque, on faisait des 45 tours. Donc,
ouais.
Ça, c'était la phase A, il fallait une phase B.
Ouais.
Donc on m'a dit, il faut que tu nous écrives très vite une phase B. Donc j'ai écrit une phase B en une demi-journée, qui s'appelle On me recherche, qui est pratiquement un plagiat d'un très beau tube de Johnny Cash qui s'appelle Wanted Man.
Ouais.
On me recherche en Vendée, on me recherche en Bourgogne, on me cherche dans le Lyonnais. Voilà. Et puis, on a sorti 45 tours. Certaines radios, dont RTL, j'étais loin d'en être le patron, hein, ont refusé de passer.
Ouais.
Jean Farran, le grand patron, qui est un génie d'ailleurs, un grand bonhomme de RTL, a dit non, nous on ne peut pas passer une chanson comme ça, c'est trop... Non, on a un public beaucoup plus catholique, tout ça, pratiquant, ils aimeront pas, c'est pas possible.
Ah oui, ça choquait vraiment les gens à ce moment-là.
Évidemment, c'est un texte choquant. Hein.
Ah oui, c'est
c'était
vrai.
Un texte choquant. Aujourd'hui, on peut tout dire, tout faire, et même n'importe quoi. Et donc là-dessus, Lucien Maurice, qui est le patron de artistique d'Europe 1, Lucien Maurice, c'est l'homme qui a découvert Dalida, entre autres choses, l'humour on l'appelait, avec les cheveux blonds, peroxydés, un drôle de personnage, très brillant. Il y a bon... RTL ne peut pas le passer. Moi, je le passe 5 fois par jour.
Ah.
Et donc, il nous passe Jésus-Christ à l'épi 5 fois par jour. Ça fait un tube énorme et toutes sortes de remous.
Voilà, un tube énorme donc dans ce premier disque qui a fait de vous tout d'un coup vraiment un auteur de chansons. Mais en même temps, si vous aviez écrit cette chanson avant même de savoir que Johnny la chanterait, c'est que ça vous titillait déjà, la chanson.
J'avais déjà écrit, figurez-vous, un thème pour Eddie Mitchell.
Ah oui.
Ça, vous ne l'avez pas récupéré dans vos archives, mon cher Benoît.
J'ai quelques petites surprises, mais pas celle-ci.
Il s'appelle L'épopée du rock, dont le refrain absolument génial disait « Le rock est notre vice, c'est la faute à Elvis. Nous l'avons dans la peau, c'est la faute à Ringo. »
Pas mal.
Ah oui, ça, effectivement.
Mais c'était parodique ou c'était sérieux? Non,
j'avais bien compris, et je l'ai toujours compris, à quel point la culture rock était importante et allait envahir littéralement toute la jeunesse mondiale. Donc, j'étais pas en retard sur l'actu, hein. J'avais cette vision, encore une fois, journalistique des choses. Mais bon, je l'ai pas prise très au sérieux. J'ai commencé à prendre au sérieux les chansons quand j'ai travaillé pour Johnny, parce que là, j'étais à un moment donné où Johnny voulait des textes autres que simplement du yéyé.
Alors, on va en reparler tout à l'heure des chansons de Johnny, mais plus globalement, la musique, pour vous, Philippe Labro, aujourd'hui, on parle surtout de chansons, mais la musique est très, très présente dans votre vie. Mais c'est plutôt Abado que Johnny Hallyday, en vrai.
C'est les deux. Non, c'est les deux. C'est les deux. C'est Abado et je sais pas, moi, Fats Domino.
D'accord,
pas
les deux.
Hallyday. Bon. C'est Mahler et Otis Redding.
D'accord.
Non, on a le droit et on peut, et il faut, à mon avis, aimer toute musique.
Oui, oui, non, mais c'est bien de le dire.
Donc. C'est ce que dit Aragon, d'ailleurs. Hein. Quand c'est fini, tout recommence. Toute musique me saisit et la moindre romance m'est éternelle poésie.
On va revenir à toutes ces chansons, Philippe Labro, ensemble ce matin, mais je vous propose, pour commencer, de faire une petite remontée dans le temps, jusque à vos très jeunes années. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, ce refrain-là, mais il passait beaucoup sur les radios de l'époque.
On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papille, au lycée papillon. Élève Isaac, vrai ça, on arithmétique, vous êtes admirable. Dites-moi ce qu'est la règle de 3. D'ailleurs, votre père, fut-il pas comptable des films Hollywood? Donc répondez-moi.
Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. La règle de 3, c'est 3 sommes d'affaires de grands producteurs de films épuisés. Un troisième qui est le commanditaire. Il fournit l'argent, il revoit jamais.
Isaac, mon petit, vous aurez 9,5. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papille, au lycée papillon.
Élève Marius.
Et présent peu cher.
Vous êtes unique en géographie. Citez-moi quels sont les départements, les fleuves et les villes de la Normandie. Ses spécialités et ses représentants.
Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. C'est en Normandie que coule la Moselle. Capitale Béziers et chef-lieu de Toulon. On y fait le caviar et la mortadelle. Et c'est la courue, Philibert Besson.
Très bien répondu, je vous ennuie pas plus.
On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papille, au lycée papillon.
Élève Cancrela.
Monsieur,
vous êtes le dernier, ça me rend morose. Je vous vois dans la classe, tout là-bas, dans le fond. En philosophie, savez-vous quelque chose? Répondez-moi oui, répondez-moi non.
Oh, monsieur l'inspecteur, moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier, je passe pour un cuistre. Mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Et puis comme plus tard, je veux devenir ministre, moins je serai calé, plus j'aurai de valeur.
Je vous dis bravo, mais je vous donne 0.
On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papille, au lycée papillon.
Et pour être encore plus précis, Philippe Labro, c'est l'année même de votre naissance, en 1936, que Fred Addison a enregistré cette chanson de Georgius.
Alors c'est absurde comme parole, n'est-ce pas? Et c'est ça que j'aime. Georgius, il avait beaucoup de talent, hein. C'est très amusant.
Magnifique. Hein.
Mais c'est toute une génération. Il y avait Georgius, je crois me souvenir aussi, il y avait Andrex, c'est ça?
Bien sûr, et tous les fantaisistes, Dranem. C'est un métier qui a disparu. Oui, Dranem, merveilleux Dranem.
Oui. totalement disparu. Et cette chanson, ben oui, n'oublions pas que derrière, on le sent très bien, il y a du swing.
Oui, c'est ça.
C'est aussi ça qui nous attirait, parce que moi, j'ai écouté, pas l'année de ma naissance, bien entendu.
Non, mais, on a continué à l'entendre
tout
le temps.
C'est l'époque où les chansons duraient très très longtemps.
C'est l'époque où la chanson française a découvert le jazz, au fond.
Exactement, parce qu'elle a été, je crois, créée d'abord par Ray Ventura, non ?
Elle a été créée d'abord par Georgius.
Et donc, il y a effectivement toute une culture derrière ça. On est juste avant-guerre. Hein. On est encore en train de profiter, effectivement, du son américain, du son anglo-saxon, qui va disparaître pendant 4 ans, quand même. Ouais. La France sera privée d'absurdités pareilles et d'un rythme pareil. Et puis, on les retrouvera. Et c'est pour ça que ça a duré, à mon avis.
Mais si j'ai voulu aussi passer le lycée Papillon, Philippe Lavreau, c'est parce que je me suis demandé si vous n'aviez pas fait partie de cette classe. Moi, j'ai lu qu'à l'école, vous n'étiez bon qu'à écrire du français, des rédactions, peut-être des œuvres d'imagination déjà, mais que pour le reste, c'était pas vraiment ça.
Ah non, j'étais plutôt l'élève cancrelat.
L'élève cancrelat, c'est ça.
Qui dit cette phrase sublime. Moins je serai calé, plus j'aurai de valeur. Et pour ça, je serai ministre. Oui, j'étais plutôt du côté du radiateur, au fond de la classe. Mais j'aimais et je savais à peu près écrire.
D'emblée, c'est quand même important.
Oui, ça joue.
Ça joue. Et puis, vous aviez une famille étonnamment, je dirais, attentive, compréhensive, enfin des parents, parce que une famille, c'est beaucoup dire. Moi, j'ai lu votre dernier livre, Ma mère, cette inconnue, chez Gallimard, magnifique portrait de votre mère, disparue il n'y a pas tellement longtemps. Et cette mère... elle ne savait quasiment pas qui était sa mère ni qui était son père. Il n'y avait pas de grands-parents dans votre famille. Il n'y avait que des parents.
J'ai jamais eu de grands-parents. J'ai eu des parents très, très livresques, très littéraires. Mon père était conseiller juridique et fiscal, certes, mais il a quand même signé 3 livres à compte d'auteur juste après la guerre, dans les années 40. Et ma mère écrivait des poèmes. J'ai tous ces poèmes sous le coude. Ça m'a beaucoup aidé pour écrire le bouquin, d'ailleurs.
Et dansait le Charleston aussi, quand elle était jeune fille.
Oui, oui, elle faisait toutes sortes de choses. C'était à la fois, c'était une Polonaise mélancolique. Et en même temps, énergique.
Et vous avez donc vous-même récemment vraiment fait une enquête pour essayer de reconstituer la véritable histoire de cette petite Française qui était votre grand-mère, qui est tombée amoureuse d'un hobereau polonais et qui ont fait cette fille, mais qui n'a pas connu quasiment ses parents, qui étaient donc votre mère, Netka.
C'est-à-dire que le père ne l'a jamais reconnue. Donc elle a été victime de ce qu'on appelle aujourd'hui l'abandonnique. Ça a duré toute sa jeunesse, toute son enfance, toute sa jeunesse. Ça a fabriqué chez elle à la fois des grands moments de solitude, mais en même temps une capacité de résilience inouïe. Ouais. Et le jour où l'amour arrive, puisqu'un jour l'amour est arrivé avec mon père, qui avait 20 ans de plus qu'elle, eh bien le manque d'amour dont elle a souffert pendant les premières années de sa vie lui donne, à cause de ce mariage, la possibilité de donner tout le temps, de distribuer tout le temps de l'amour. C'est un peu ça le récit que j'ai fait.
À la suite d'une véritable enquête sur votre histoire, d'une certaine façon.
Oui, en trouvant des archives, des lettres, la correspondance, en interrogeant quelques témoins encore vivants de l'époque, en parlant avec mes frères aînés, qui en savent peut-être parfois un peu plus que moi. Oui, j'ai reconstitué petit à petit. Si je raconte un épisode quand elle a 14-15 ans et qu'elle se fait humilier dans une salle de classe par un professeur sadique, je sais que ça a eu lieu, je ne suis pas là. Donc je reconstitue, ça fait un chapitre entier, qui est écrit un peu comme une nouvelle, quoi, ce qu'on appelle une short story.
Et un des derniers mots d'ailleurs que vous dit votre mère, ma mère c'est inconnu, donc c'est un extrait d'une chanson que vous aviez écrite pour Johnny Hallyday. Oui. Merci pour ton effort.
Oui, c'est une chanson qui s'appelle Sarah, ou Ma jolie Sarah.
Oui, qui est très connue.
Très connue et qui est écrite dans les années 70, mais que Johnny continue de chanter encore aujourd'hui. Oui. Et dans cette chanson, le chanteur explique qu'il veut le corps de Sarah. Sarah ne lui donne pas son corps au premier couplet, mais il lui donne au second. Donc il lui dit, tu m'as donné ton corps, merci. Merci pour ton effort. Ce qui est évidemment absolument dégueulasse. Hein, okay. Un jour, je vais quitter ma mère puisque j'allais la voir à Nice, mais j'avais peur de rater l'avion, donc je me dépêche. Au revoir, je t'aime mon chéri, oui bien sûr, au revoir. J'ouvre la porte et elle me dit, merci. Merci pour ton effort.
Ce qui veut dire qu'elle suivait de près tout ce que vous
faisiez. Ça veut dire
qu'elle
connaissait par cœur mes chansons écrites 20 ans auparavant, ou presque. Hein. Mais qu'en même temps, elle me disait, tu t'es pas trop foulé, ça fait 3 mois que t'es pas venu.
Voilà, c'est un double sens.
Elle culpabilisait avec la musique.
Alors, vous avez été un journaliste précoce. Là, je vais peut-être vous surprendre, parce qu'il se trouve que vous êtes passé à la radio le 8 décembre 1951. Vous étiez un tout petit jeune homme. Ça s'appelait le magazine des moins de 20 ans. Et vous veniez, je crois, de gagner un concours de journalisme. Et vous êtes interviewé avec votre collègue qui fait le journal des jeunes par monsieur Jean Le Guével.
À l'occasion du salon de l'enfance, de jeunes collégiens des moins de 16 ans ont créé un journal, le journal des jeunes. Eh bien, nous avons devant nous M. Philippe Labreau et Mademoiselle Annie Manin, qui sont les grands responsables du journal. Eh bien, voulez-vous me dire comment est née cette initiative ?
Eh bien, c'est le Salon de l'Enfance et aussi un grand quotidien de Paris qui ont eu l'idée de faire faire un journal par les jeunes. Alors, ils ont posé des questions dans le journal, des questions auxquelles nous avons répondu, et ensuite, il y a eu une autre sélection orale.
Bon. Et votre expérience a été accueillie avec enthousiasme par le public et surtout par ceux que vous cherchiez à toucher, c'est-à-dire les jeunes. Est-ce que vous continuerez cette expérience ?
Eh bien, nous aimerions continuer, mais à savoir si nous pourrons, car nous aurons des difficultés d'abord d'ordre familial.
Ah, les parents !
Toujours les parents. D'ordre scolaire, car nous avons beaucoup de temps perdu.
Oui, ça fait perdre beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous faites dans quelles études faites-vous, mademoiselle ?
Oh, moi, je suis violoniste.
Et ça vous prend également beaucoup.
Oh, oui, énormément.
Voilà, ça, c'est un
incroyable,
hein.
Incroyable document. Hein.
Et le jeune,
la première
Philippe
fois que j'entends ça. Et là, je ne reconnais pas ma voix. Du
non,
tout.
Vous avez l'air d'un, en tout cas d'un jeune homme très sage, hein,
mais en même très temps composé, oui,
un peu composé, mais déjà très passionné de journalisme. Oui. On sent que c'est plus important que l'école, justement.
Bah oui, ça m'a d'ailleurs forcé à redoubler. J'ai raté mon bac à cause de ça, donc il a fallu que je le repasse, mais. Tout arrive dans la vie. Le fait que j'ai raté mon bac à cause de cette expérience journalistique a fait que j'étais présent l'année d'après dans une classe où on est venu nous annoncer qu'il y avait des bourses possibles
pour aller aux États-Unis.
Tout s'enchaîne.
On va y revenir, mais vos parents ont dû quand même être contents que vous gagniez ce concours de jeunes journalistes.
Ils n'étaient pas contents. Ils étaient satisfaits de voir que la vocation qu'ils avaient sentie très tôt chez leur gamin pouvait petit à petit s'ouvrir. Ils ont eu l'intelligence, comme à mon avis tous les parents devraient l'avoir, de ne jamais, jamais contrarier ma vocation. Moi, non, je leur dois beaucoup, beaucoup.
Et en cette même année 1951, tiens, je vois que Lucienne Delisle et Aimé Barelli ont enregistré une des nombreuses versions d'une chanson que j'aime bien, que vous m'avez donné envie de ressortir, Le Voyage à Cuba. On va en écouter quelques mesures, puis vous allez nous dire ce qu'elle représente pour vous.
D'accord.
Petit yuyu de bois, il s'appelait Nina Gentille, et nous allions à Cuba.
De Miami jusqu'aux Antilles, par calme plat, c'est à deux pas.
Nous étions deux garçons, deux filles, et nous allions à Cuba.
Le vent chantait dans la voile, tous quatre nous étions heureux.
Dans le sillage des étoiles, semblait merveilleux.
Sur les vagues comme une anguille glissait notre jolie Nina. Le ciel sentait bon la vanille et joyeux nous allions à Cuba.
1951, la grande époque du cha-cha-cha, et donc vous-même, Philippe Labreau, vous avez découvert, j'imagine, la chanson dans vos jeunes années.
Oui, oui, c'est une chanson qui s'est inscrite dans ma tête, Dieu seul sait pourquoi, que d'ailleurs je transformais quand je la chantais, et à mes enfants, car je l'ai chantée à mes enfants qui évidemment la connaissent eux-mêmes. C'était trois garçons, trois filles. En fait, dans la chanson,
à
c'est
la
deux
fin.
Garçons, deux filles.
À la fin.
À la fin, ils sont trois. Ouais,
à la fin, ils sont trois parce qu'ils ont fait deux bébés.
C'est ça. Et le ciel sentait bon la vanille. Ça m'a toujours hanté, cette métaphore, cette image absolument sublime. Non, mais écoutez, c'est des paroles idiotes, mais c'est un rythme merveilleux. C'est le rythme sud-américain qui débarque en Europe. Hein.
C'est vrai.
On sent aussi quand même du jazz derrière. La musicalité n'est pas mauvaise. Hein.
Non, non, pas du tout.
Il y a des cuivres.
C'est un bon orchestre.
Oui, il y a toutes sortes de choses. Et quand je chantais cette chanson à ma famille, à mon entourage, ils plaisantaient en disant « Tu nous l'as inventée, elle n'existe pas. » Bon, je suis bien sûr que si. Mais on ne l'entendait nulle part. Et il se trouve qu'un jour, en voyage, on arrive en Thaïlande, dans un grand hôtel, en escale pour reprendre l'avion pour Paris. Nous rentrons dans la grande salle à manger, il y a un grand orchestre, et il joue Cuba. Il joue. Ça s'appelle Cuba, non, Voyage à Cuba.
Voyage à Cuba. Vous avez pu prouver aux enfants que cette chanson avait réellement existé.
Oui, 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 oui. Elle existe toujours.
En tout cas, voyage à Cuba, c'était déjà les prémices du voyage aux Amériques, finalement.
Peut-être. C'était peut-être une manière d'annoncer mon envie, ma curiosité, mon avidité de partir. Partir selon les quatre mots d'Apollinaire.
Voilà. Mais partir vers l'ouest, en tout cas, pas vers l'est.
Si j'avais quatre dromadaires.
Hein. Ah oui, bien sûr, oui. Donc, le bestiaire.
Avec ces quatre dromadaires, Don Pedro de la Fabrubera courut le monde et l'admira. Il fit ce que je voudrais faire si j'avais quatre dromadaires. Ah, moi, j'avais pas quatre dromadaires, mais j'ai obtenu une bourse, et donc j'ai parcouru, non pas le monde, mais les États-Unis.
Et là encore, quand même, avec l'encouragement, alors vous avez 17-18 ans, vous n'êtes pas majeur à l'époque,
pas du tout,
loin de là même encore, et l'encouragement de vos parents.
Bien sûr, plus que ça, vas-y, fonce.
Pars aux États-Unis.
Et l'ami intime de mon père, beaucoup plus sage que lui, il dit, mais tu le laisses partir comme ça, rien d'autre. J'avais deux adresses aux États-Unis. Il y avait l'adresse de l'université où je devais aller, bien sûr, sinon deux adresses simplement. Et mon père lui dit, écoute, c'est la vie, hein, il va se débrouiller.
Vous êtes arrivé donc là-bas très jeune, en pleine époque du rock'n'roll.
Oui, au démarrage du rock'n'roll blanc. C'est-à-dire, j'arrive, j'ai la chance d'arriver, c'est mid-50s, hein, début, on est en 54.
Ouais.
Et là, il y a un jeune homme, gominé, aux hanches particulièrement souples, et à la voix sublime, qui s'appelle Elvis Presley, qui commence à émerger. Et j'ai eu la chance de voir pratiquement sa première apparition à la télé dans le show de Ed Sullivan, où il chantait, je ne sais plus quel... My Blue Suede Shoes ou Heartbreak Hotel, je ne sais pas. Mais toujours est-il que la télé avait pour ordre, les caméramans avaient pour ordre de ne pas montrer son pelvis. Hein. Il fallait le montrer simplement.
Juste au-dessus de
la ceinture. Pour voir à quel point il se déhanchait en imitant au fond le geste sexuel.
Bien sûr,
mais bon, c'était surtout effectivement l'émergence de ce rock and roll hérité, bien évidemment, du blues, du jazz, de tout ce que les Noirs, les Afro-Américains et d'autres avaient fabriqué pour faire en sorte qu'un jour, il y ait une émergence blanche qui a été suivie ensuite par toutes sortes d'autres noms et des grands groupes, bien sûr.
Vous avez écrit, Philippe Labro, plusieurs livres sur les États-Unis, ses voyages, la façon dont ce pays vous a fasciné, les étudiants étrangers, un été dans l'Ouest et encore d'autres pages. Qu'est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, maintenant loin de tout cela, avec beaucoup de recul sur, j'ai envie de dire inversement, peut-être une certaine américanisation de la société française, de la langue française, etc. Ça vous plaît, ça ?
Bon, ça durait...
Ça commençait déjà à l'époque.
Oui, ça démarrait très tôt, n'oublions pas. Il y a toujours eu une influence anglo-saxonne et américaine dans le langage, dans la musique, dans certains comportements, dans les mœurs, dans les vêtements, dans les accessoires. La commercialisation de la culture américaine passe par le vêtement, le jean, par le coca, tout ça. Bon, qu'est-ce que j'en pense ? C'est comme ça.
C'est comme ça.
C'est arrivé, on n'allait pas non plus...
Mais vous, écrivain, vous ne trouvez pas l'invasion de l'anglicisme dans la langue française aujourd'hui est devenu quelque chose d'un peu excessif ?
Aujourd'hui, comme ils disent, c'est too much.
C'est too much.
Bah, évidemment, c'est idiot, ça ne sert à rien. Quand ils vous disent prime time, pourquoi on ne dit pas heure d'écoute ?
Parce que le mot américain apporte toujours une connotation de modernité. C'était déjà ça, au fond.
Oui, bien sûr, c'est une connotation de modernité. Il est vrai que c'est une langue pratique, efficace. Ouais. Donc parfois, un terme et un mot est beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible à tout le monde et plus intelligible. Mais je pense qu'il faut faire la part des choses et que la langue française est tellement belle, tellement riche. Il n'y a pas besoin d'américanisme pour réciter et aimer du La Fontaine.
Il me semble. Alors, justement, évoquons vos années américaines. On a mis de côté, par exemple, Robert Mitchum dans cette chanson « From a Logical Point of View ». Dites-nous peut-être un mot sur ce choix.
Bah, d'abord, Mitchum, c'est une légende. J'adore, un personnage extraordinaire. Et puis, il s'est mis un jour à faire un vinyle de Calypso, que je trouve merveilleux.
Et c'est vrai. On découvre un chanteur, acteur vraiment complet.
Et puis, là encore, il y a une musique, le Calypso, qui est une musique... exotique,
en fait, vous êtes assez latino de goût.
Je suis pour tout ce qui est différent.
If you want to be happy, live in a king's life. Never make a pretty woman your wife. If you want to be happy, live in a king's life. Never make a pretty woman your wife. Now all you have to do is just what I say, and then you may be jolly, merry and gay. Therefore, from a logical point of view, better marry a woman uglier than you.
from a logical point of view. Always marry a woman uglier than you.
A pretty woman make her husband look small, and very often cause his downfall. Soon as she married her, and then she started to do the things that will break your heart. And when you think that she is belonging to you, she's calling somebody else to do. Man, from a logical point of view, better marry a woman uglier than you.
Alors, ce qui est intéressant dans cette chanson,
Philippe Lavreau,
c'est qu'évidemment, Robert Mitchum, grand acteur américain de tous les films noirs, enfin, une figure légendaire d'Hollywood, emploie et utilise l'accent calypso. Hein,
bien sûr, oui, totalement fabriqué pour la chanson.
Et
oui.
Que d'autre part, plus politiquement incorrect, tu meurs, puisqu'il est dit ceci, « An ugly woman gives you meals on time ». D'un point de vue logique, c'est le titre de la chanson, il vaut mieux épouser une femme laide parce qu'au moins, elle vous donne vos repas à l'heure. C'est,
vous hein, imaginez ça, aujourd'hui, Philippe Labro.
On ne peut pas écrire des chansons comme ça. Cela dit, c'est pas Mitchum qui
peut le dire là ce matin, mais non. Je ne sais pas ce qui va suivre non, mais encore.
Mais c'est du calypso, hein, c'est toute cette culture-là. Et ils se moquent d'eux-mêmes, ces gens-là, bien entendu. Il ne faut pas prendre ça du tout au sérieux. En revanche, il y a un ton, il y a un exotisme, et il y a le fait que c'est Mitchum.
Vous êtes rentré donc en France après ce grand voyage aux États-Unis qui, on le sait, a été central, essentiel, déterminant dans votre vie, Philippe Labro. Et vous êtes, comme il se doit, entré dans le milieu de la presse, de la radio et de la presse écrite, Europe 1, je crois, en 1957. Et puis très vite après, France Soir, et on peut dire... Les grandes années de France Soir, avec ce personnage, il faut peut-être rappeler un peu aux auditeurs qui ne savent pas forcément, qui était Pierre Lazareff. On peut dire que c'était, à ce moment-là, un âge d'or de la presse dont, malheureusement, nous sommes bien, bien éloignés aujourd'hui.
C'était les dernières années d'or de la presse. Hein.
Ouais.
Il y avait encore une...
C'était fastueux, la vie d'un grand quotidien parisien à l'époque.
C'est-à-dire que France Soir, dont Pierre Lazareff, ce petit homme génial qui avait tout compris, qui avait engendré véritablement des générations entières de journalistes,
ouais.
France Soir tirait à 1,5 million, sinon 2 d'exemplaires, et il y avait à peu près entre 4 et 5 éditions par jour. C'est-à-dire que c'était l'époque où quand il se passait...
C'était vraiment différent l'une de l'autre, c'était pas juste un titre qui changeait.
Ah non, ouais. Non, beaucoup de choses qui changeaient. Ouais. Moi, quand j'ai fait des grands reportages, ouais. Parce que j'étais grand reporter chez eux, il m'arrivait d'écrire 4 papiers différents par jour.
Ah oui,
et de les dicter bien. Au téléphone, et même pas les écrire, de les balancer presque en direct. J'étais beaucoup aidé par le fait que j'ai démarré dans la radio, et donc j'ai appris à faire du direct en radio,
ouais.
Pouvoir construire une phrase à peu près normale, sans avoir à l'écrire. Et c'était ça, France Soir. Il faut savoir que quand il se passait quelque chose, les gens sortaient dans la rue pour acheter le journal. Ouais. France Soir.
Tout de suite, quoi.
Un peu plus tard, quand il s'est passé quelque chose, les gens rentraient chez eux pour regarder la télé. C'est toute la différence.
Toute la différence. Il y avait, oui, je disais aussi, quand même un train de vie dans les journaux.
C'était, ah ben oui, c'était
au cœur de la société française, ben c'était magnifique.
Oui.
Je veux pas parler des notes de frais.
Si, on peut en parler. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de justifier.
Il n'y avait pas besoin de justifier.
Non, non. Ça. Je vous jure. Je suis arrivé dans un grand, grand reportage aux États-Unis. Lors de l'assassinat de Kennedy, je suis arrivé, j'ai donné tout ce que j'avais dépensé sur un bout de papier comme ça, sans aucun justificatif. J'aurais pu mettre n'importe quoi. J'aurais pu m'acheter 3 costumes, et ben ça passait. Il faut dire aussi qu'avec de telles méthodes, ils ont ruiné le journal.
Puis il tenait salon un petit peu. C'était un personnage central qui recevait beaucoup.
Oui.
Il faisait se rencontrer les gens.
Il avait une maison à Louvciennes, une résidence où le dimanche, il recevait la terre entière. Hein. C'est là que j'ai croisé... les gens qui allaient devenir président de la République. J'ai croisé Mitterrand qui joue au ping-pong et Pompidou plus tard. Enfin, c'est assez étonnant. C'est une période tout à fait révolue aujourd'hui.
Quand vous comparez ça à la presse écrite d'aujourd'hui, ça ne vous donne pas un petit peu de nostalgie ?
Il ne faut pas avoir de nostalgie. Il faut simplement s'en souvenir, parfois le raconter, ce que j'ai fait dans certains de mes livres. Mais c'est comme ça. La vie avance, c'est un mouvement. Hein.
Oui. Alors dans ces grandes années de la presse, qui sont aussi des grandes années de la chanson française, j'imagine que vous avez vu des spectacles, vous êtes allé au Music Hall. Je sais que parmi vos amis, il y avait Jean-Loup Dabadie, Pierre Bénichoux, d'autres fous de chansons. Vous avez aussi participé un petit peu à ce mouvement vers la chanson française.
Ah ben on aimait tous ça, on continue de l'aimer. Quand on se rencontre avec Bénichoux ou Jean-Loup, on se met à chanter justement des chansons de l'époque.
Ouais.
Jean-Loup qui depuis est devenu, comme vous le savez, un très très grand parolier. Hein.
Oui.
Pas seulement de chansons, bien sûr. Hein. À l'occasion de la disparition de Jean Rochefort, on a redécouvert le génie absolu d'Abadie pour les dialogues.
Hein. Bien sûr.
Un éléphant s'attend
les dialogues de cinéma et les paroles de chansons.
Nous irons tous au paradis, ouais. C'est d'Abadie. C'est mis en scène par Robert, mais c'est écrit par d'Abadie.
Mais il était né dans la chanson d'Abadie, puisque oui. Son père lui-même était un grand auteur de chansons.
Il était né dans l'écriture et dans et la formidable capacité d'aussi bien écrire une chanson qu'un poème, qu'une pièce de théâtre. Il a adapté beaucoup de pièces de théâtre. C'est un véritable virtuose de la plume.
Vous avez écrit notamment un très beau texte sur Jacques Brel. Je ne sais pas si c'était le chanteur que vous admiriez le plus à ce moment-là.
Je l'admirais infiniment. Et lorsqu'il est mort, effectivement, j'ai dû écrire ce texte pour Paris Match. Et depuis, sa famille et des tas de gens l'ont repris dans des coffrets. Enfin, il est resté relativement convenable. Oui. Quand je le relis, je me rends compte que j'ai peut-être fait quelques erreurs. Mais qu'est-ce que je disais en gros? Je disais que c'était un homme qui avait décidé d'aller voir.
Ouais.
Il allait ailleurs.
Ouais.
Et qui savait que, quelque part, la mort l'attendait. À mon avis, son cancer était déjà là assez rapidement. Il fumait comme un
pompier.
Damné, oui. Et donc, quand il quitte la chanson, j'ai la chance, avec quelques autres, d'être à l'Olympia ce soir-là. C'est aussi ça qui a motivé sans doute ce papier que j'ai écrit plus tard. Et je l'ai vu chanter les dernières chansons qu'il n'a jamais chantées. On ne voulait pas le laisser partir. Il revenait pour les rappels, pour les saluts, en peignoir, en sueur. Et personne ne voulait qu'il s'en aille. Il nous a chanté un Amsterdam inimaginable. Il avait quand même une énergie, une force, une dramaturgie. Et quand même, un très bon maintien du langage. C'est pas mal écrit. Hein,
oui, c'est beau.
Ah oui, oui, oui.
C'est beau. Et c'est vrai qu'à une époque, on avait tendance à publier ça comme de la poésie. C'est pas tout à fait de la poésie.
Mais qu'est-ce que c'est la poésie? C'est quoi, la chanson? La poésie partout, hein.
Ouais. Voilà donc pour ces années chansons. Mais je vous propose, donc Philippe Labro, d'avancer un petit peu dans votre histoire avec la musique qui va nous revenir également par le biais du cinéma. Écoutons par exemple le générique de L'Alpagueur.
Alors, il y a l'énergie, la vigueur, la construction, la force. Colombier, c'est un très grand compositeur.
Philippe Labro, donc, effectivement, oui, la musique de votre film L'Alpagueur en 76, signé Michel Colombier, grand musicien. Vous avez raison de le dire, parce qu'on ne sait pas toujours assez quel rôle il a joué dans la chanson française. On connaît que les interprètes, au fond, lui a été un grand compositeur, arrangeur et aussi donc compositeur de musique de film pour vous. Vous aviez choisi vous-même de travailler avec lui? Comment ça s'est passé?
Il m'a été recommandé par mon mentor, mon maître et mon ami qui s'appelait Jean-Pierre Melville,
oui.
À propos duquel, comme vous le savez, cette semaine, sort un coffret extraordinaire.
Jean-Pierre Melville, qui vous a presque donné l'amour du cinéma, ou qui l'a renforcé considérablement. Bon,
j'avais déjà l'amour du cinéma, mais quand j'ai rencontré Jean-Pierre, oui, il m'a aidé à mieux comprendre le cinéma. Il m'a même donné des conseils très judicieux pour faire mon deuxième long-métrage qui s'appelait « Sans mobile apparent ». Mais si vous voulez, quand j'entends le début de l'Alpagueur sur « tintin », je me souviens de nos séances de travail, séances de mixage, séances de montage. Il suivait le tournage de l'Alpagueur. C'était devenu un ami, un frère.
Moi, ah bah justement, oui.
J'en ai les larmes aux yeux de parler de Michel.
J'allais vous demander, parce que voilà, il y a des tas de façons d'amener la musique au cinéma. On sait qu'il y a certains réalisateurs qui s'en occupent vraiment juste à la fin, comme d'un petit truc qu'on rajoute au bout. Là, c'était visiblement pas le cas dans votre façon de travailler.
Ah bah évidemment. Non,
le compositeur était présent.
Ah mais dès le départ, vous choisissez le compositeur en même temps que vous castez votre film.
Hein. C'est pas le cas de tout le monde.
Oui, bah enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je faisais. Ouais. Et j'étais pas le seul, hein, croyez-moi. Ouais. Et effectivement, j'ai fait la même chose pour Rive Droite et Rive Gauche quand j'ai trouvé Michel Berger qui a fait la musique de Rive Droite. Il m'a toujours semblé, c'est une banalité de le dire aujourd'hui, que la musique était partie intégrante de l'image. Et que sans les musiques, les films ont 10 fois moins de sens, de signification, d'impact. Ouais. Nous sortons d'une salle de cinéma, nous avons les images et la musique
bien
dans
sûr.
La tête.
Et donc vous avez suivi également de près les séances d'enregistrement,
sûr,
le mixage, etc.
Oui. Oui, Colombier était un type très inventif. Il était là, il avait des petits objets, parfois une cuillère et une espèce de silex sur lequel il tapait un peu. Comme ça faisait un petit son bizarre qu'il intégrait dans les moments de suspense, parfois, dans l'Alpagueur et ainsi dans l'Héritier. Il y a des moments comme ça où on entend un petit son bizarre. C'est Michel Colombier. Il l'a mis là parce que c'est pas seulement de la musique.
C'est important. C'est,
oui, il l'a mis là pour ponctuer, pour annoncer, pour souligner un suspense, une erreur, une tragédie. C'est un personnage formidable, Colombier.
Je le disais, le cinéma, il est arrivé un peu en deux dans l'essentiel de votre vie, après l'écriture, à proprement parler, de romans.
En même temps. En même temps, simultanément.
Vous savez, Pierre Lazareff aussi qui est presque à l'origine d'un de vos premiers livres, me semble-t-il. Enfin, qui est à l'origine.
Oui, de mes livres, Oui, c'est lui qui m'a fait écrire en l'espace de 3 semaines
une parodie
de la vie d'Al Capone qui s'appelle Un Américain un peu tranquille.
D'après des BD qu'on trouvait
d'après des bandes dessinées. C'était assez étonnant. Il faisait des bandes dessinées qui s'appelaient Le Crime ne paye pas et Les Amours célèbres. C'était deux bandes dessinées très connues. Et à partir des bandes, il voulait en faire des livres. Et il m'a commandé, comme ça, la bande de la vie d'Al Capone.
Le cinéma est donc arrivé presque en même temps.
Le cinéma a toujours été en moi. Moi, je séchais les cours de lycée pour aller voir des films le matin. J'ai eu le choc, comme toute ma génération, de Citizen Kane, que j'ai dû voir quinzaine de fois, très très jeune, très gamin. C'est mon père qui m'a emmené voir Citizen Kane. C'est lui qui m'a fait découvrir Orson Welles. Et on a été baigné dans le cinéma américain, et pas seulement américain. Je me souviens du choc de Quai des Orfèvres.
Oui, Clouseau. Merveilleux film.
Oui, extraordinaire.
On salue Suzy Delair qui nous écoute peut-être.
On salue ce cinéma qui n'a pas, là encore, beaucoup vieilli.
Et Daniel Darieux qui vient de nous quitter.
Oui, et qui était d'une modernité invraisemblable.
Et pourtant, ce qu'on appelait la modernité à l'époque, c'était uniquement quasiment la Nouvelle Vague et ses options.
Oui, mais la Nouvelle Vague a toujours reconnu que Darieux était une icône et qu'elle a traversé le cinéma grâce aussi, évidemment, à des metteurs en scène comme Max Ophuls. Il faut bien voir que c'est toujours pareil. Bien sûr, c'est une grande actrice, mais elle était au service d'un très grand metteur en scène et de très grands textes.
Et Jeanne Moreau, notre autre grande disparue de l'année.
Oui, c'est évidemment très triste parce que ce sont des générations entières qui ont aimé cette femme, qui ont été séduits par elle, qui l'ont écoutée chanter. Parce que Moreau, elle a tout fait, elle aussi.
Oui, bien sûr.
Moi, la première fois que je vois Moreau, je crois que c'est dans Touchez pas au Grisby. Ouais. Jacques Becker, qui est un des, à mon avis, un des polars pionniers, pierre fondamental du polar français noir. Hein.
Avec une musique formidable aussi, en plus.
Jean Vienneur.
Exactement.
À l'harmonica.
Oh, bravo, Philippe Labreau.
Écoutez, Grisby, Touchez pas au Grisby, je connais par cœur.
Ah, voilà.
Ah oui, c'est pas compliqué. Et Moreau.
L'excellent Jean Vienneur.
Et Moreau, à côté de Doradol, fait un personnage de petite garce, quoi, de petite prostituée, et à qui Gabin adore donner des claques. Il la gifle en permanence. C'est là que j'ai connu la première fois sur l'écran. Après, j'ai eu la chance de la rencontrer. On a beaucoup bavardé à l'époque où elle sortait avec le film de Marguerite Duras, Moderato Cantabile, à Cannes. C'est un de mes meilleurs souvenirs, ça. Ouais. C'était là, il y avait Duras, il y avait Moreau, il y avait Jean-Paul Belmondo, c'était une belle époque.
Malheureusement, tiens, bah, puisqu'on en est à nos chers disparus et récemment disparus, un mot encore peut-être, parce que, alors, pour le coup, lui, il a tourné dans un de vos films, c'est Jean Rochefort, c'était dans L'Héritier en 1973 avec Belmondo.
Oui, alors, il ne faut pas oublier que Belmondo, copain de conservatoire de Rochefort et de quelques autres, ouais. Michel Beaune et compagnie, lorsqu'on prépare un film avec Jean-Paul, il n'y a aucune raison, il n'y a pas de honte à discuter avec lui du casting. Vous n'êtes pas le seul responsable du casting. C'est pas qu'il produisait le film du tout, mais je pensais qu'il pouvait m'apporter des idées. Mmh. Et c'est lui qui m'a suggéré pour le rôle d'un des adjoints de Bart Cordel, le héros de L'Héritier, le personnage de Rochefort, qu'on appelait le nonce. Alors il était très comme ça, compassé, cravate, costume, trois pièces.
Vous voulez dire dans la vie ?
Non, non, dans le film.
Ah oui.
Ah, dans la vie, pas du tout. Mais donc, il m'a signalé Rochefort. Évidemment, déjà, Rochefort, à l'époque, était très connu. Et j'ai été le chercher parce que sa silhouette, sa voix, convenait parfaitement à ce personnage. Je ne l'ai jamais revu depuis, ou presque. Et je me souviens d'ailleurs qu'il considérait que je n'étais pas un metteur en scène très intéressant.
Oh.
Si. Il se moquait même de moi, dans mon dos. Non. Jean Rochefort disait, oui, regarde-le, là, bon, il se prend au sérieux. Et il ne prenait rien au sérieux. C'est ça qui est extraordinaire. Moi, je me prenais très au sérieux à l'époque.
C'est vrai ?
Ah oui. Et avec Jean-Paul, il me faisait le coup d'être très sérieux pendant les prises. Mais à la seconde où la prise s'arrêtait, ils déconnaient tous les deux. Et moi, ça m'amusait, mais en même temps, ça m'irritait un peu.
On va l'écouter, tiens, qui déconne un peu, Jean Rochefort, en duo avec Jean-Pierre Mariel dans cette chanson intitulée « Paris jadis ».
Paris, c'est plusieurs villages, et chacun a son visage. Le 16e a son langage, et la bastoche a le sien. On y cause en argomuche, et Pantin se dit pantruche, mais ni le montant, mais ni le muche, et le temps n'y change rien. Moi j'aime bien la place des fêtes, et les choses étant bien faites, pas loin du tabac buvette, y a l'église et la mairie. Moi je rigole quand je pense à ceux qui partent en vacances, en Bretagne ou en Provence, rien ne vaut l'air de Paris. Et allez donc, en voilà ritournelle de la chanson gnangnan et chauvine et vieux jeu. Réveille un peu le piano à bretelles, on se croirait au printemps, le ciel est toujours bleu. On sait bien de par le monde que Paris c'est une blonde, et les visiteurs abondent, il en vient de tout pays. La tour Eiffel les étonne, le musée Grévin les passionne, et la Seine enfin leur donne l'attrait de ses quais fleuris. Dans la lumière irisée, ils s'en vont, l'âme grisée, le long des Champs-Élysées, et comprennent que Paris restera quoi qu'il advienne la capitale souveraine, la seule, l'unique et la reine, par le cœur et par l'esprit. Et allez donc, en voilà ritournelle de la chanson gnangnan et chauvine et vieux jeu. Réveille un peu le piano à bretelles, dans le genre exaltant on ne pourrait pas faire mieux.
Ah, j'aime bien cette petite chanson.
Ah, ben moi aussi, je
vous... Ah, c'est vrai, ça vous plaît, Philippe?
Ben, je viens de la découvrir. La moi, ce que j'adore, c'est « Et allez donc, envoie la ritournelle !» Réveille un peu le piano à bretelles. Je sais pas qui a écrit ça.
Jean-Roger Cossimon.
Cossimon, très bon parolier. Hein.
Très bon parolier.
Mais Rochefort chante très bien. Hein.
Il chante très bien. Il est en duo avec Jean-Pierre Mariel. C'est un film de Tavernier, je crois, des enfants gâtés. Ouais. Et ça marche bien, je trouve. Voilà, je me suis dit que ça vous ferait plaisir.
Très plaisir.
Le souvenir de Jean Rochefort. Philippe Labrault, j'ai vu que vous aviez été même provisoirement un moment présentateur de journal télévisé.
Oui, pendant un an, à l'initiative de Pierre Desgroupes, début des années 80, j'ai présenté pendant un an le journal d'Antenne 2 Midi.
Antenne 2 Midi.
Oui, c'était avant que ça devienne France 2.
Bien sûr.
Et ça durait une bonne heure. C'était formidable parce que pendant 20 minutes, vous faisiez de l'info.
Ouais.
Et ensuite, vous aviez un invité et vous bavardiez avec lui. Il avait des propres invités. C'était une sorte de magazine à l'intérieur du journal. On s'est bien amusé, on a fait des tas de choses. Mon premier invité, c'était Coluche.
Ah oui.
Mon deuxième invité, c'était John Travolta.
Pas mal.
Je ne sais plus qui est le troisième. Alors, on a vraiment rigolé. C'était très intéressant. On travaillait avec 3 francs 6 sous à l'époque, hein, je peux vous dire. On se changeait dans le bureau, quoi. Il n'y avait même pas de loge, il n'y avait pas de maquillage. Rien, c'était... Pas de prompteur, bien sûr. J'en voulais surtout pas. Et une belle équipe.
Mais finalement, soyons honnêtes, le média qui vieillit le mieux, c'est quand même la radio.
Ça vieillit très bien, la radio. Hein? Non, mais c'est sûr. Ben, évidemment. Évidemment. D'abord, ça se balade partout. C'est immédiat. Immédiat. Ouais. Instantané. La spontanéité de la radio est extraordinaire. En plus, ça fait travailler l'imaginaire.
Ouais, c'est ça.
Et ça accompagne.
On tout. Peut faire autre chose en l'écoutant. On n'est pas scotché ça devant son écran. Ça vous accompagne.
La radio, pour moi, c'est la route. C'est la route la nuit. Aussi bien Max Meynier que les routiers. Bien mais sûr. Aussi bien que le country western sur les routes du sud américain dans les années 50.
À propos de chansons, alors sur la route, je voudrais qu'on revienne un petit peu, Philippe Abreu, à l'épisode Johnny Hallyday.
Oui, c'est plus qu'un épisode. Hein.
Qui est un épisode avec plusieurs chapitres, en fait, oui, sous-chapitres, si j'ose dire, puisque vous avez, on l'a vu tout à l'heure, commencé avec Jésus-Christ. Tout ça a finalement donné un album de chansons à texte et qui s'appelait Vie en 1970, puis un deuxième l'année suivante qui s'appelait Flagrant délit en 71. Oui. Et c'était un peu nouveau, au fond, pour Johnny Hallyday d'interpréter comme ça, c'est ce que j'oserais appeler des chansons à texte d'un auteur français contemporain.
Ben oui, il a souhaité opérer un tournant et ça s'est fait comme ça, grâce à des amis communs, grâce à Eddie Vartan, grâce à Lee Hallyday, qui ouais. à l'époque était son producteur. Et c'est quand même lui qui l'a élevé. Lee Hallyday a eu une influence considérable sur Johnny. On fait qu'il y a eu ce besoin d'aller chercher un journaliste, écrivain, en l'occurrence moi, ouais. pour lui offrir, lui proposer des choses plus proches de l'époque, de l'actualité, de ce qui se passait dans le monde. On est début 70 et post-68, et Flagrant délit, ça a été très dur le début des années 70, mais il y a le début aussi de la pollution, des graffitis, de l'opposition entre deux générations, et tout ça a fait que j'ai proposé des titres à partir de musique qui m'était proposée, écrite par Tommy Brown et Mickey Jones, qui étaient deux petits génies. On a fait ça...
Vous écriviez d'après la musique, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de façons d'écrire des chansons. Ouais, il y a ceux qui font la musique d'après les textes, ceux qui font les textes d'après la musique.
Cet album-là, on l'a fait à partir de musique existante. Ouais. Et on a enregistré tout ça à Londres, avec des musiciens formidables. La plupart avaient travaillé pour les Beatles et pour les Stones. C'était une expérience... passionnant.
Là aussi, comme pour le cinéma, j'ai envie de vous demander, ça vous intéressait aussi la fabrication de la chanson jusqu'au bout?
C'est passionnant.
Ouais. Le studio, à l'époque, c'était quelque chose en plus.
Oui, le travail des musiciens, l'importance de rajouter des percussions, comment ensuite on écoute et Johnny, son producteur, Lee, et même les autres musiciens disent, attends, là il faut en rajouter, là il manque 3 violons, attention, un peu de trompette. Tout ça existe et est un univers très particulier et absolument fascinant, qui m'a appris beaucoup de choses.
Comment ça se passait avec lui, concrètement, le travail, l'échange, s'il y avait travail et échange?
Il y avait travail, oui. Oh ben l'échange, c'est pas compliqué, je lui proposais le texte, il disait c'était bien ou pas bien. Si c'était pas bien, il fallait le refaire. Je travaillais toutes les nuits.
Il vous disait pas, tu pourrais changer ça?
Si, il m'a fait 2-3 suggestions. Mais dans l'ensemble, il acceptait tout parce que ça correspondait à ce qu'il cherchait à cette époque de sa vie. Johnny, comme tous les grands artistes, les chanteurs populaires, sait très bien ce qu'il ne veut pas.
Ouais.
Et c'est à peu près bien ce que le public veut.
Alors, est-ce que j'ai senti une légère amertume? Non, sans doute j'exagère un peu, mais dans votre dernier livre, Ma mère, c'est inconnu, dans le chapitre où vous évoquez justement cette chanson Sarah, vous dites une des seules chansons que j'ai écrites pour lui qu'il continue à reprendre aujourd'hui.
Non,
aimeriez qu'il en reprenne plus?
Non, il a quand même la gentillesse de reprendre Sarah. Il a repris parfois aussi Fils de personne, une adaptation de Creedence Clearwater. Et puis, il suffit que je lui trouve des textes et qu'il les accepte. Hein. Je peux toujours continuer d'écrire pour lui. Hein.
C'est plus facile à faire une adaptation d'une chanson américaine déjà existante qu'une chanson originale?
Non, c'est très difficile.
C'est vrai?
Oui, c'est difficile parce que la langue américaine correspond complètement à la musique qui a été écrite là. Il faut rentrer dans ce qu'on appelle le corset musical. Il ne s'agit pas de traduire, surtout pas. Il faut adapter, parfois même trahir. Non, c'est du boulot. Hein.
Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un vrai écrivain ou d'un vrai auteur de chansons pour toutes ces adaptations qui ont été, on sait, nombreuses dans la génération yéyé, qui est celle de Johnny.
Il a aussi la vertu d'avoir fait travailler des très grands paroliers et musiciens comme Jean-Jacques Goldman et comme Michel Berger, beaucoup plus tard, qui lui ont proposé des textes originaux. Et là aussi, qui prenait une dimension. La force de Johnny, c'est qu'il allait chercher régulièrement tous les 5-10 ans des nouveaux compositeurs et des nouvelles propositions.
Alors, vous avez quand même réussi aussi une performance sur laquelle on va s'arrêter le temps d'une chanson, dès 1970, de faire chanter Johnny sur la musique de Beethoven.
Oui, ben un jour...
Comme d'où est venue l'idée?
Moi, c'est venu facilement. J'étais peut-être un peu en avance, puisqu'étant journaliste sur la société ou sur l'époque, où je m'étais vite rendu compte qu'on allait vers la destruction de la planète. Hein.
Ouais.
Et la pollution, l'écologie, l'environnement, sans doute à cause de mes séjours aux États-Unis, étaient très présents et prégnants. Et donc, j'ai écrit un petit poème où au fond, le type qui parle dit « Expliquez-moi, est-ce qu'il y a vraiment des oiseaux ?» Là, il y avait des chansons, il y avait des rivières, il y avait des gens, il y avait des garçons et des filles, il y avait des maisons, des arbres. Dites-moi, est-ce que ça a vraiment existé ? C'est-à-dire, je situe un homme qui est dans les années 3000 ou 2500 et qui se rend compte que le monde a disparu et qu'il y avait autrefois une nature. Et donc, j'écris ça comme un poème. Je le propose à Johnny qui me dit « Je ne peux pas chanter ça, c'est inchantable. C'est trop compliqué et tout. » Je dis « Non, c'est un poème et tu vas le dire et tu en es tout à fait capable. Tu as déjà dit des poèmes. » Il avait fait déjà une tentative avec Hamlet. Et je vais te proposer simplement, derrière, en fond sonore, un des plus beaux mouvements de la 7e symphonie de Beethoven. C'est un des mouvements que j'aime le plus.
Le mouvement lent, bien sûr.
Le mouvement lent que je trouve extraordinaire. Et donc, Eddie Vartan l'a réduit à une certaine durée. Et on est entré en studio. J'ai donné mon texte à Johnny. Il m'a dit, lis-le-moi d'abord, montre-moi comment il faut faire. Alors, je l'ai lu, croyant que j'avais toute la force et le talent nécessaire. Il m'a dit, allez, donne-moi ça. Il a arraché le casque, il a pris le texte et il a balancé.
Qui a couru sur cette plage? Elle a dû être très belle. Est-ce que son sable était blanc? Est-ce qu'il y avait des fleurs jaunes dans le creux de chaque dune? J'aurais bien aimé toucher du sable une seule fois entre mes doigts. Qui a nagé dans cette rivière? Vous prétendez qu'elle était fraîche et descendait de la montagne? Est-ce qu'il y avait des galets dans le creux de chaque cascade? J'aurais bien aimé plonger mon corps une seule fois dans une rivière. Dites, ne me racontez pas d'histoire. Montrez-moi des photos pour voir si tout cela a vraiment existé. Vous m'affirmez qu'il y avait du sable et de l'herbe et des fleurs et de l'eau et des pierres et des arbres et des oiseaux. Alors, ne vous moquez pas de moi. Qui a marché dans ce chemin? Vous dites qu'il menait à une maison et qu'il y avait des enfants qui jouaient autour. Vous êtes sûr que la photo n'est pas truquée? Vous pouvez m'assurer que cela a vraiment existé? Dites-moi, allons, ne me racontez plus d'histoires. J'ai besoin de toucher, de voir pour y croire. Vraiment, c'est vrai? Le sable était blanc? Vraiment, c'est vrai? Il y avait des enfants, des rivières, des chemins, des cailloux, des maisons? C'est vrai? Ça a vraiment existé?
Poème sur la septième de Beethoven, bien sûr, Johnny Hallyday en 1970, sur vos paroles, Philippe Labreau.
Oui, je dois dire en toute modestie, immodestie, que je suis assez fier de ce texte. D'abord, il le dit très très bien.
Oui.
On ne s'est pas tellement trompé en mettant Beethoven derrière, ça donne une solennité à ses paroles. Et d'autre part, j'ai essayé d'être conforme à ce que je crois être la poésie. Vous pouvez dire des choses très fortes avec les mots les plus simples de la langue française. Hein. Une rivière, des enfants, des fleurs, tout dépend de la façon dont vous construisez cela. Et je dois dire que Johnny m'a interprété Non.
Il la reprend aussi, d'ailleurs, celle-ci, de temps à autre.
Hein. Pourquoi pas, elle est encore d'actualité.
Elle a été faite avec un vrai orchestre sur le disque.
Alors, ouais. Le disque, il y a des éléments de disque et puis un orchestre ensuite. Et maintenant, il le fait, quand il le dit, avec en plus une voix très différente.
Oui, parce que là, c'est vraiment une voix de jeune homme.
Ouais. Oui, c'est la voix d'un gamin, même. Il y a du monde, hein. Ils sont 40, dirigés par Anne Gravoin, d'ailleurs, très souvent, la violoniste.
Et l'épouse de Manuel Valls.
Voilà, et je suis toujours très fier. Franchement, ça fait partie des choses dont je me dis, on ne s'est pas trop gouré ce jour-là.
Ça, c'était donc en 1970, on l'a dit en 71, flagrant délit. Et puis, vous êtes retrouvé épisodiquement ensuite avec Johnny au fil des ans, avec l'album Rock and Slow en 82, avec Mon Amérique à moi, 84, Ne tuez pas la liberté. C'est un rendez-vous, voilà, qui...
Oui. Bah oui, c'est une amitié, donc il a besoin d'un texte, il peut m'appeler. Si j'en ai client comme ça, je peux toujours lui proposer. Ouais. Bon, il voit beaucoup d'autres gens, il est très entouré, il a des producteurs, tout ça. Ouais. On travaille beaucoup moins ensemble. Moi, j'ai pas écrit pour lui depuis une chanson qui s'appelait Pardon, dans un album.
99.
Voilà,
bravo. 100%.
Voilà, bravo. Ouais. Bah dis donc, il est bien renseigné.
Ouais, quand même, ça se prépare un petit peu.
Oui, quand même. L'album produit par son fils David. Depuis, j'ai jamais rien écrit. J'ai écrit des textes et il les a pas adaptés ni adoptés parce que quand il aime pas, il aime pas. Hein. Il sait ce qu'il veut. Il sait très bien ce qu'il veut.
Alors, l'autre chapitre que je voulais quand même aborder avant, malheureusement, qu'on se quitte, Philippe Labro, c'est tout un album aussi que vous avez fait avec Gainsbourg et Birkin,
ouais.
Qui s'intitule Lolita Go Home. C'était en 1975. Comment c'est arrivé, ça?
J'étais très copain avec Serge. J'ai une amitié.
Ah bon?
Oui, qui a duré le temps que durent les amitiés dans ces métiers-là. C'est pas éternel.
Dans les soirées de Saint-Germain-des-Prés?
Non, ça s'est passé comme ça. Je sais plus qui nous a présenté l'un à l'autre. Il savait que j'avais déjà écrit pour Johnny. Ouais. Il savait que j'avais fait des films. Bref, des affinités électives entre nous deux. Bon, allons vite. Il me dit un jour, écoute, je dois faire un album pour des chansons pour Jane. C'est toi qui vas écrire les paroles. Je dis, tu rigoles, tu plaisantes.
Serge... En plus, écrire pour une femme, c'est pas comme d'écrire pour un homme quand on est un homme soi-même.
Non, mais surtout, Gainsbourg, écoute, t'as vraiment besoin de personne pour écrire les paroles. T'es bien meilleur parolier que n'importe qui.
C'est
non,
vrai.
Non, j'ai pas le temps, je ferai la musique. Voilà, et il a eu ce coup de génie, il m'a dit, je te donne les titres. Il m'a proposé 8 titres. Et moi, cher Benoît, je considère que le titre, c'est le concept.
Ouais.
Et j'ai toujours considéré ça pour tout ce que j'ai fait. Ouais. Bouquins, films, ce que vous voulez. Et donc, les titres, je suis rentré dans ces propositions et j'ai écrit donc une douzaine ou une huitaine de textes que je lui ai présentés quelques semaines plus tard. Je travaillais très vite à l'époque.
Donc là, il n'y avait pas de musique avant, contrairement à
aucune,
Johnny.
Hein. Non, il n'y a aucune musique.
Juste un titre.
Ah ouais, j'apporte le texte, il dit oui, c'est pas mal. Il pose ça sur son piano. Tard le soir, il allume son magnétophone et il se met à composer au piano devant moi, chanson après chanson, toute la nuit.
Ah bon, d'accord, en une nuit.
Oui, en une nuit, il a fait les lignes mélodiques. Je pense qu'il les
avait... Il les notait sur du papier à musique?
Non, ils enregistraient.
Ah, il les enregistrait.
Oui, un petit magnéto.
Ouais.
Mais je pense qu'il avait déjà des lignes mélodiques dans sa tête. Néanmoins, quand même, je l'ai vu inventer des chansons comme ça, toute une soirée. Et donc là, on s'est retrouvé au studio et on a fait un certain nombre de titres.
Et le studio, donc avec Jane, c'est un bon souvenir aussi.
Très bien passé, c'était toujours passionnant. Ce sont des artistes, tous ces gens-là. Moi, je ne suis là que pour les accompagner.
Vous avez un faible pour une des chansons de l'album qui s'appelle French Graffiti, qui est assez osé d'ailleurs.
Mais justement, c'est pour ça que j'ai un faible, parce que ça surprend certains de mes amis. Comment t'as écrit ça? Ben, je dis oui, c'était pour Serge et Jane. Et c'était une certaine époque.
Dans les toilettes d'un café, je ne fais que passer. Je lis quelques graffitis. Je ne les comprends pas toujours. Même s'ils parlent d'amour, encore moi s'ils sont obscènes, pleins de fureur et de haine. Il y a des ballons, des saucisses, une adresse à Saint-Tropez. Il y a des culs et il y a des cuisses et des onomatopées. Des numéros de téléphone, je soupire, je m'appelle Yvonne. Des poèmes inachevés, la plage est sous les pavés. Des Baudelaire anonymes, trafiquants de cocaïne, ont dessiné leur douleur, une flèche qui perce un cœur. We'll be right back. en a en rouge et en bleu. Il y a des mots d'amour, d'espoir. Il y a des trucs simples et affreux. Comme ceci, le ciel est noir. Des excréments, des serments. On est cerné par les cons. Inventons un monde nouveau. Il y a une salope rouvano. Un sexe en forme de serpent. Un sexe en forme de machine. Une femme cherche un amant. Un jeune homme aime Lénine. Les prénoms de trois voyous. Jackie, Marcel et Simon. I want to be fucked by you. Ainsi c'est un œuf tout rond. Je ne les ai pas tous lus. Même s'ils me parlent d'amour. Même s'ils me parlent du cul.
Jane Birkin, Serge Gainsbourg, pour la musique, Philippe Labro, pour les paroles, le temps, j'ai envie de dire le temps des graffitis, parce que j'ai l'impression que ça a un peu disparu. Et c'est vrai que quand j'étais tout jeune, il y avait des graffitis partout dans les toilettes des cafés.
Mais maintenant, ça passe par les selfies, ça passe par...
Ah voilà, tout ça,
oui,
passe,
ça
par
passe par les appareils.
Téléphone, sûr, internet et tout ça, bien sûr. Oui. Bon. C'est pas mal. Hein.
Ouais, enfin, les graffitis, c'est assez violent, oui, mais ça ne me déplaît pas. Je considère qu'avoir écrit aussi bien Poème sur la 7e que Serge Graffiti...
Voilà, on a deux aspects de oui, votre œuvre de parolier, voilà. Là.
C'est un peu d'éclectisme, il en faut un peu. Soulignons quand même la très belle musique de Gainsbourg, mais...
Les arrangements.
Arrangements, Jean-Pierre Sabart.
Excellent orchestrateur dont on a parlé récemment dans cette émission et qu'on salue parce que c'est vraiment une grande figure aussi de la chanson française. Ouais. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin, Philippe Labro, pour évoquer ces chansons, même si, je le rappelle, c'est aussi l'occasion d'inviter à lire votre dernier récit-roman, vous nous avez dit, Ma mère, c'est inconnu, qui est paru chez Gallimard et dont on peut dire que c'est un nouveau volet quand même de tout un ensemble de livres à caractère autobiographique que vous avez écrit au fil du temps.
Oui, c'est sans doute la fin d'un cycle.
La fin, vous croyez ?
Bon, on ne sait jamais.
Il n'y a pas des chapitres que vous avez envie d'explorer encore dans cette...
On verra. Je tourne ma plume entre mes mains à la recherche du prochain livre.
Mais au fond, il y a chez vous, en tout cas, un caractère, pas unique, mais important, d'intimisme, d'autobiographie, qui est très français pour l'amoureux de l'Amérique que vous êtes.
Bon, je suis très français, vous savez, j'ai été élevé... Balzac, Stendhal, Maupassant, Musset, et quelques autres, hein. Et Flaubert, bien sûr. Et Flaubert. Le seul, le vrai.
Le seul, le vrai.
Ah, écoutez. Ouais. L'insipide de Madame Bovary, hein.
Ouais, c'est vrai.
Et puis un cœur simple.
Oui. Oh, la merveille.
Oui. Voilà. Donc, j'ai quand même une révérence et un respect extraordinaire pour la langue française. Ça m'a pas empêché d'être imprégné d'américanité. On peut tout mélanger.
Vous ne savez donc pas encore, en tout cas, quel sera le premier chapitre où vous ne voulez pas nous le dire
de votre parcours,
sur votre histoire.
J'aimerais le savoir.
Philippe Labro, on va se quitter avec une merveilleuse chanson que vous nous avez recommandée via Tarantino, si j'ose dire, puisque c'est dans Reservoir Dogs, Coconut, du regretté Harry Nilsson.
Très bon chanteur.
Ça montre votre curiosité parolier. Pour la musique encore.
Harry Nilsson est formidable, on ne connaît pas assez en France. Et cette chanson, cette musique, elle est typique Tarantino, il va chercher à la fin d'un film d'une violence sanglante, inouïe, Reservoir Dogs, qui est à sa manière un petit chef-d'œuvre, et il nous balance cette espèce de musique un peu parodique et un petit peu qui me fait penser un peu à ce que je vous ai proposé tout à l'heure avec Calypso de Mitchum pour souligner, je crois, l'absurdité et la dérision de tout.
Et ça montre en tout cas chez vous une curiosité qui ne s'est pas arrêtée comme trop souvent au temps de votre jeunesse, de vos années d'apprentissage. Vous suivez ce qui se passe au cinéma, dans la chanson, etc. Vous aimez Tarantino, entre autres.
Mais bien sûr, pas seulement, mais évidemment. Et puis la musique, encore une fois, qui fait partie de ma vie. Et les chansons, je pense que c'est une forêt. Il faut se balader dans la forêt.
C'est vrai. Ouais. Merci d'avoir été avec nous, Philippe Labro.
Merci beaucoup.
Brought up on a coconut, he bought it for a diamond. Sister had another one, she paid it for the lime. She put the lime in the coconut, she drank and poured up. She put the lime in the coconut, she drank and poured up. She put the lime in the coconut, she drank and poured up. She put the lime in the coconut, she called the doctor, woke him up and said, Doctor, ain't there nothing I can do?
chanter que c'est tata. J'oublie spellier que c'est tata. Ain't there nothing I can take que c'est tata. J'oublie spellier.
Now let me get this straight. Put the lime in the coconut, you drank and bowled up. Put the lime in the coconut, you drank and bowled up. Put the lime in the coconut, you drank and bowled up. Put the lime in the coconut, you called your doctor. Woke him up, said doctor.
Nothing I can take, I said, doctor. To relieve his bellyache, I said, doctor. Ain't there nothing I can take, I said, doctor. To relieve his bellyache, you put the lime in the coconut, you drink them both together. Put the lime in the coconut, and you feel better. Put the lime in the coconut, drink them both up. Put the lime in the coconut, and call me in the morning.
Coconut par Harry Nilsson, un choix de mon invité Philippe Labrault, que vous pouvez d'ailleurs retrouver avec tous ses choix sur la page Étonnez-moi Benoît, sur le site francemusique.fr. Vous pouvez également télécharger cet entretien et toute cette émission avec Philippe Labrault, dont je vous recommande évidemment une nouvelle fois le dernier livre, Ma mère, c'est inconnu, qui est paru récemment chez Gallimard.
Thank you.
oui, c'est la saison de la chasse. Alors j'ai ressorti pour vous cette grande fanfare intitulée « Rendez-vous de chasse », une merveilleuse page de Rossini pour quatre corps de chasse et orchestre qu'on vient d'entendre par l'orchestre symphonique Giuseppe Verdi sous la direction de Riccardo Chailly.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et je vous l'ai dit, nous terminerons cette émission ainsi que la prochaine par un hommage à Daniel Darieux en compagnie de Martin Péné. Mais j'en profite pour vous signaler que Martin, que vous connaissez bien, a maintenant sa propre émission, hein, une excellente émission sur la chanson, tous les dimanches à 23h30, ça s'appelle Tour de chant, je vous la recommande donc. Mais il se trouve aussi que Martin avait enregistré au moment des 100 ans de Daniel Darieux, au mois de mai dernier, deux chroniques, donc sur toutes les chansons de Darieux. On va écouter aujourd'hui le premier volet, enregistré le 6 mai dernier, en hommage à notre grande disparue. Bonjour Martin.
Bonjour Benoît.
Oui, très spécial parce que je vous ai pas encore vu souvent fêter des centenaires en direct sur les ondes. C'était le 1er mai dernier, les 100 ans de Daniel Darieux. C'est vous qui menez l'hommage que nous souhaitions lui rendre.
Et oui, parce qu'avec plus de 100 films et 8 décennies d'activité, elle incarne l'une des plus longues carrières du cinéma français. Et à l'écran, on peut dire que Daniel Darieux, c'est le charme personnifié. Il faut en effet se souvenir qu'avant Bébé, il y a eu Dédé, l'actrice à qui toutes les adolescentes des années 30 voulaient ressembler. Mais à l'inverse de Bardot, eh bien Darieux n'a jamais défrayé la chronique. Elle fut même pendant très longtemps réticente à se livrer. Témoin, cette archive de novembre 1957, lorsqu'on tente de lui faire dire quelques mots à l'occasion de la remise des victoires du cinéma français.
J'ai dans un petit coin Daniel Darieux, François Perrier, Bourville et Brigitte Bardot. Alors je voudrais que vous racontiez un peu chacun vos projets. Je ne vous demande pas si vous êtes bien content d'avoir reçu un prix, une belle victoire verte.
Bien sûr, naturellement.
On est toujours bien content, n'est-ce pas,
Daniel Darieux ? Ne me présentez pas toujours le micro parce que j'ai horreur de parler.
Mais je sais que vous avez horreur de parler, mais justement vos paroles sont tellement rares.
Mais pourquoi vous me le mettez comme ça sur le nez ?
Parce qu'il faut. C'est pour des raisons techniques.
Ah bon. Non mais je suis très contente d'avoir gagné ce prix.
Je dois dire, d'ailleurs, cher Martin Péné, en réécoutant cette interview de 1957, que c'est une des raisons pour lesquelles, finalement, je n'ai pas beaucoup cherché à recevoir ici Daniel Darieux, parce que je crois qu'elle n'aimait pas tellement, jusqu'à une époque récente, parler d'elle, et encore moins de ses premières années.
Mais vous allez voir la suite, ouais, Benoît. Donc ouais. C'est vrai que pendant longtemps, elle ne s'intéressait qu'à l'avenir, mais elle a fini par devenir assez déserte au début des années 2000, acceptant enfin de se pencher sur son parcours et son exceptionnelle carrière d'actrice de cinéma, de théâtre et de chanteuse. C'est ce qui nous occupe un peu plus aujourd'hui. Elle, qui avouait dans les années 50 ne jamais avoir vu nombre de ses films, prend à nouveau plaisir à ce moment-là à regarder ses bobines de ses débuts. Et il faut dire qu'elle a démarré très tôt, à 13 ans et demi. Elle rêvait de devenir artiste et a eu la chance d'être engagée en 1931 pour tourner un rôle important dans Le Bal, d'après une nouvelle d'Irène Némirovski. Et le cinéma, à ce moment-là, le cinéma parlant, démarrait à peine et cherchait de nouveaux talents capables de jouer et de chanter. Et alors c'est vrai qu'elle avait de vraies dispositions musicales, qu'elle a appris le chant, le violoncelle et le piano grâce à sa mère qui était chanteuse lyrique. Et Daniel Darieux donc le raconte en 2002 au micro de son vieil ami José Arthur. Et là vous allez voir quand même qu'elle est un peu plus déserte.
Alors comment s'est passé le début ? Vous étiez d'un milieu pas du tout de cinéma ?
Non, pas de cinéma, mais j'étais quand même dans un milieu musical. Ma mère donnait des leçons de chant parce que papa est mort, j'avais 7 ans. Et il était ophtalmo, il nous l'a laissé sans un rond. Maman a toujours chanté parce que elle a même donné les récitals et tout ça. Et elle s'est mise à donner son chant pour nourrir ses trois enfants. Et bon, elle donnait 3 jours à Paris, 3 jours à Bordeaux de leçons. Faut le faire à l'époque. Et bon, alors j'ai toujours été dans un milieu musical. Elle m'a appris à chanter, à me placer la voix. Justement, c'est à cause d'elle que j'ai chanté un peu quand même dans tous mes films.
On vous a fait chanter tout de suite?
Tout de suite.
Immédiatement?
Immédiatement. Oui. Je pense que c'est à cause de... Parce que le gars, il m'avait entendu chanter avec maman, parce que maman me donnait son chant, c'était son rêve que je chante. Mmh. Alors bon, son rêve, je l'ai fait un
donc
petit...
Donc il vous l'a trahi dans le bon sens du mot, il a dit, voilà. Elle sait chanter.
Voilà.
Et on l'a exploité tout de suite.
Et alors après, j'ai tourné des tas de comédies au cinéma, et le producteur m'appelait toujours, me disant, alors on va te jouer la chanson du film, que tu vas chanter dans le film. Je dis, mais pourquoi je chante dans le film, je suis pas une chanteuse. Oui, non, mais ça fait rien. Il faut que tu chantes une chanson par film.
Et pendant des années. En plus, c'était l'époque où il fallait une chanson par film.
Voilà, une chanson par film et qui n'avait rien à voir avec l'action. Et je me mettais à chanter.
Alors, vous avez chanteur duo, même avec des Pierre Mingan, Igara, des gens qui ne disent plus grand chose, il faut bien le dire.
Voilà.
Mais qui étaient des grands jeunes premiers de l'époque.
Oui, c'est ça.
Je pars, tu pars, on part, allons autre part.
Par le soleil, les oiseaux, les abeilles.
Pour ce voyage, partons sans nos bagages. Trois collets, deux mouchoirs, un peigne rasoir. Soyons prudents, prenons la brosse à dents.
Mais le piano nous gênerait dans l'auto.
Allons, la route est belle. Filons, à tire d'aile. Roulons, chantons, rit, les bois sont fleuris. Et l'air est douce, nous mangeons sur le pouce. Quand on est deux, le week-end est joyeux. Trois jours, c'est court.
Mais ça suffit pour se connaître.
On fait un tour.
On fait sa cour.
Et puis autre chose peut-être.
Samedi, c'est à midi. Qu'on s'en va jusqu'à lundi.
Trois jours d'amour. Trois jours, c'est court.
Un des nombreux duos avec Pierre Mingan, enregistré par Daniel Darieux, là c'est en 1935. Très jolie chanson d'ailleurs de Jean Nohain et Eisman avec en plus l'orchestre Valberg, Martin Péné.
Alors là, voilà, n'en jetez plus, c'était quand même le nec plus ultra de l'époque en termes de chansons. Et c'est vrai qu'elle incarnait la plupart du temps une gamine facétieuse et fantasque. Et puis elle avait donc pour partenaire Pierre Mingan, Henri Garat et surtout Albert Préjean. Alors on se souvient de La crise est finie, de Dédé, Quel drôle de gosse, Mademoiselle Mozart, Un mauvais garçon. Mais bon, je ne peux pas citer tous ces films, il y en a tellement. Et c'est vrai que sa voix juste et claire d'adolescente séduit les spectateurs. Et chaque film est aussi l'occasion donc de graver des disques 78 tours. Et ses chansons sont composées pour l'essentiel par Georges Vamparis, Valberg et Paul Mizraki. Comme elle a débuté très jeune, elle ne prenait pas sa carrière très au sérieux cette époque-là, jusqu'à sa rencontre avec le réalisateur Henri Decoing, qui est devenu en 1935 son premier mari. Et la même année, Anatole Litvak lui fait tourner Meyerling avec Charles Boyer, la grande vedette masculine de l'époque. Et ce film obtient un succès mondial qui lui ouvre les portes d'Hollywood. Elle est engagée pour 7 ans, mais bon, elle n'y tourne qu'un seul film en 1938, La Coqueluche de Paris avec Douglas Fairbanks Jr. Et puis bon, elle préfère casser son contrat et rentrer en France. C'est alors que Maurice Tourneur lui offre le magnifique rôle de Katia. Et puis elle enchaîne plusieurs films à succès avec Henri Decoing jusqu'à Battement de cœur, sorti en 1940. Et elle y chante une ravissante chanson de Paul Mizraki qu'elle reprendra en mars 1953 dans l'émission La Joie de Vivre qui lui sera consacrée.
Bon, je connais une devinette un peu bête, j'en conviens. La réponse sera vite faite. Je commence, écoutez bien. Mon premier, c'est un cœur timide qui pour moi ne saurait jamais mentir. Mon second, c'est deux bras solides où l'on peut si bien se bloquer. Des baisers sonores comme on aime à les imaginer. Et mon tour, c'est l'homme que j'attends. C'est facile à deviner. Ah vraiment, c'est une charade pour laquelle on ne cherche pas. Et pourtant vous restez en règle, vous donnez votre langue au chat pour que vous l'ayez bien en tête. Je la répète, écoutez-la. Mon premier, c'est un regard tendre. Mon deuxième, un sourire moqueur. Mon troisième, les mots que j'aime entendre. Et mon tout se trouve dans mon cœur. Il y tient même tout.
voir. Je le vois, vous avez deviné que mon tour c'est...
Une charade par Daniel Darieux dans La Joie de Vivre en 1953.
Oui, et par rapport aux habitudes de l'époque, Daniel Darieux joue de façon très naturelle, presque d'instinct. Alors on pense aussi dans ce genre-là à Arletty, Michel Simon, Jean Gabin, Charles Vanel ou Rému. Alors donc on arrive au début de l'occupation, elle tourne trois films produits par la société allemande Continental, Premier Rendez-vous, Caprice et La Fausse Maîtresse, qui connaissent un très grand succès populaire et leurs chansons sont sur toutes les lèvres. Et puis en 1942, elle préfère se mettre en retrait et le restera jusqu'à la libération. Elle n'est alors guère inquiétée, mais bon, il faut dire qu'elle est un peu passée de mode, sans doute trop associée aux souvenirs des années sombres dans l'esprit du public. Et sa carrière d'après-guerre connaît un certain ralentissement. Il faut attendre surtout les années 50, qui sont celles de la consécration d'une actrice capable d'incarner des personnages très divers. Et donc elle travaille avec de grands réalisateurs comme Max Ophuls, Claude Autant-Lara, Henri Decoing ou encore Julien Duvivier, qui lui offrent plusieurs rôles majeurs. Et le 8 avril 1956, Darieux fait partie des invités de La Joie de Vivre, à nouveau, la célèbre émission d'Henri Spade, enregistrée en public dans la vaste salle de l'Alhambra, est consacrée ce jour-là à Claude Autant-Lara.
Nous avons les mêmes goûts pour le silence. Vous savez, quand vous criez tout d'un coup, oh là là, quelle horreur, qu'est-ce que c'est que ce silence?
Ah oui, oui, j'aime pas
ça.
J'entends le silence.
Il y a trop de silence, ça fait une impression incroyable.
Vous ne supportez pas un plateau silencieux. Tenez, par exemple, alors on pourrait, par exemple, à l'instant même, empêcher le silence de s'établir ici sur ce plateau en demandant à l'orchestre de jouer simplement le refrain de la chanson que vous chantiez dans Occupe d'Amélie, pour vous le rappeler comme ça. Ce refrain, c'était Non, tu ne sauras jamais. On va vous demander à l'orchestre de jouer le refrain.
Simplement, hein.
Simplement. Simplement. Vous en prie, monsieur Rich, vous nous jouez le refrain de... Ah non, non, mais vous ne chantez pas, Daniel. Non, non, c'est pour nous faire entendre, bien sûr. C'est trop haut là, c'est trop. Là, si tu veux que je la fasse partir à chanter, jamais, parce que non. Parce que vous comprenez, voilà, le problème consiste à ne pas faire chanter Daniel Darieux. Daniel Darieux a peur de chanter devant vous. Alors, je ne veux pas la faire chanter, ce menton-là est beaucoup trop haut pour qu'elle démarre si jamais elle a plus bas.
Oh, toi, qu'en secret, j'adore. Si je t'aime ou si je te hais. Si je raille ou si je souffre encore, en vain dans mes yeux distraits, tu cherches à lire en moi-même, tu voudrais savoir si je t'aime, mais je ne te le dirai.
Vous fâchez après moi?
Oui, très.
Non, mais écoutez, voilà, vous demandez, je vais tout leur dire maintenant, je leur dis tout, n'est-ce pas? Il y a quelques temps, je téléphone à Daniel Darieux et je lui dis, écoutez, il est évident que, évidemment, ça fera beaucoup de peine à Claude Autant-Lara, mais vous êtes beaucoup trop occupé pour venir dans sa joie de vivre.
C'était encore trop,
d'ailleurs. Alors, elle me dit, mais si, je viendrai. Je dis à Autant-Lara qu'il était absolument impossible qu'il compte que vous chantiez jamais, non, tu ne sauras jamais, parce que, évidemment, vous avez tout à fait peur de chanter en public. Puis en ce moment, vous êtes très occupé, etc. Elle dit, mais si, je veux chanter. Je dis, vous savez, le seul ennui dans tout ça, c'est qu'il ferait venir répéter l'après-midi. Mais si, je viendrai. Et puis, plus de Daniel Darieux, elle partait le matin à 7h du matin, enfin, impossible de la joindre. Cet après-midi, Daniel Darieux, je suis méchant de dire ça, hein. Mais cet après-midi, Daniel Darieux téléphone, ici, elle dit, « Ah, je tiens à vous dire tout de suite que je viens ce soir. » Ah, fiche, car j'avais très peur qu'elle ne vînt pas. « Mais je tiens à vous dire que je ne chanterai pas du tout. Faites jouer l'heure par l'orchestre si vous voulez, mais moi, je ne chanterai pas. » Voilà. Vous faiblement remarquez que je n'ai pas demandé à Daniel Darieux de chanter. J'ai fait jouer l'orchestre. Et Daniel Darieux, emporté par son tempérament artistique, n'a pas pu s'empêcher de se laisser emporter par la musique de Rico. C'est vrai, non?
C'est vrai, c'est comme ça que ça s'est passé.
Exactement.
Voilà. Et comme Daniel Darieux ne se met jamais en colère, pas plus que Claude Autant-Lara, il est bien évident qu'elle ne peut pas m'en vouloir. Vous êtes fâché, non, moi, vous n'êtes pas. Non, vous n'êtes pas fâché.
Voilà, les auditeurs d'aujourd'hui ne connaissent pas forcément cette émission extraordinaire qui a reçu tout le music hall de l'époque, La joie de vivre d'Henri Spath, que j'avais reçu ici même d'ailleurs. Donc ici avec Daniel Darieux en 1956 pour terminer cette première évocation, Martin Péné. Et le deuxième volet des archives sur Daniel Darieux par Martin Péné, ce sera samedi prochain. L'émission d'aujourd'hui était préparée par Annie Comier avec à la technique Déborah Dagobert, Bastien Varigaud, Emmanuel Rose, réalisation soit de Boucorsa. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Mon invité, ce sera Philippe Bouvard.
À réécouter sur francemusique.fr.